Chère Moll, première partie, chapitre 1. À la gare de Douai, Lucie Thirache était descendue. Elle se faufila parmi les commissionnaires chargés de mal et parvint sous la marquise extérieure. Les portières d'omnibus béaient au bord du trottoir. De l'une à l'autre, elle allait, indifférente au boniment des conducteurs, s'attardant à déchiffrer les enseignes. L'inscription « Hôtel de Versailles » l'arrêta. Dans sa dernière lettre, la patronne avait désigné cette voiture. Elle monta. Pour lui faire place, un monsieur ramassa sur ses genoux les pans de sa redingote. Une jeune fille amoncela un châle, des paquets, plusieurs cartons. Lucie remercia, recueillit un coup de chapeau et un sourire. Flattée de ses politesses, elle examinait ses compagnons avec sympathie. Par les regards, rapidement, une intimité s'établissait. « Où va mademoiselle ?» interrogea le cocher. Elle rougit par embarras. Indiquer l'adresse, sans doute bien connue, de la maison Donard, c'était, devant tous, dénoncer son métier de fille. Muette, elle espéra d'inopinées recommandations qui, données par les autres voyageurs, étoufferaient peut-être sa réponse. Personne ne parla, elle dut se décider. « 7 rue Pépin. » Un rire montra les dents gâtées du cocher. Il reclaqua la portière, proclamant à un collègue « Hé, Flachot, nous nous mettons bien, nous conduisons une nouvelle pour le 7. » Avec un bruit étourdisseur de vitres dansant en leur châssis, l'omnibus cahota par la ville. Le monsieur avait mis un binocle. Partout, il scrutait Lucie dans une étude insolente de sa toilette et de ses gestes. Sous ce regard, la fille détourna la tête. Par le vasistas, elle fixait les yeux sur une place caillouteuse, vers un kiosque à musique militaire, renfermant des chaises en pile. Elle songea. Ainsi on la méprisait, tout de suite, sitôt sa condition décelée, et pourtant elle n'était pas encore au bordel. Que serait-ce quand elle emporterait la livrée, ses hardes voyantes, qu'elle imaginait bleues, rouges, vertes, très décolletées? Et si on lui donnait des peignoirs de gaz, il lui siérait parfaitement, car elle avait la peau fort blanche. Elle s'oublia en une minutieuse analyse de ses beautés corporelles, et, ayant pensé au costume qui lui conviendrait le mieux, les magasins l'intéressèrent. Puis elle se mit à considérer les passants. Des dames marchandantes au seuil des boutiques, des hommes graves portant sous le bras des serviettes en cuir. En elles-mêmes furent critiquées leurs allures, impitoyablement. Aux rampes des balcons, des jeunes gens s'étayaient, fumant. L'idée qu'ils seraient ses clients ramena la fille à l'appréhension de son nouveau métier. La fille se désolait encore. Se reprocher ainsi qu'une faute l'instant de distraction qu'elle venait de prendre. Cependant, il lui était bien permis s'y jouir un peu. Bientôt, elle allait être prisonnière pour un long temps. Le monsieur s'était approché. Il se serrait à elle, érotique. Lucie se recula, mimant une moue froissée. Vraiment, il la dégoûtait, cet homme. Il n'était même pas convenable devant le monde. Sévèrement, elle le toisa. Mais la mine enflammée du vieux mâle lui parut très grotesque, et elle dut se tourner au carreau, afin qu'il ne la vît pas s'égayer. Pour un empire, elle n'aurait voulu l'encourager. Bon, plus tard, ce manège-là, quand elle y serait contrainte. Devant elle, un bâtiment s'élevait, aux sombres murailles de pierres anciennes, à la tour munie d'un cadran et flanquée de clochetons. Probablement, c'était l'hôtel de ville. Il en existait un pareil à Saint-Quentin. Et le bureau de police devait s'y trouver aussi. On y porterait ses papiers demain, pour que, définitivement, on la classa. Quel avilissement! L'omnibus doubla péniblement l'angle d'une rue. Un instant, la fille passa par des alternatives de crainte et de satisfaction triomphant, selon que la voiture semblait retenue en une dépression du paysage ou qu'elle parvenait à en sortir. Quand les chevaux eurent repris le trot, elle s'était résignée à son sort. Bah, elle n'était pas la première. Il y avait bien d'autres filles de maison. Et puis, la placeuse lui avait fait un grand éloge de l'établissement Donard. Pourquoi se croire autrement bâti que les autres? Le beau malheur! Mener une joyeuse vie de noces, être caressée, boire et manger d'excellentes choses. Elle aimait beaucoup le champagne. Peut-être en boirait-elle chaque soir. Le véhicule stationnait. Le monsieur se leva, poussant la jeune fille devant lui. Il voulut l'empêcher de sourire à Lucie, et lui-même marcha sur le pied de la fille sans même dire pardon. Dans la rue, une porte s'était ouverte. Une dame s'était avancée, elle reçut la demoiselle dans ses bras. Toutes deux disparurent dans le couloir de marbre. Quand on eut déchargé les malles, le monsieur, resté à la porte, lança une dernière œillade. Lucie haussa les épaules, attristée. On allait la traiter ainsi, tous. Cette jeune fille avait une grande chance d'être riche, elle ne subirait jamais les mépris. Au fond, elle ne valait pas mieux qu'elle, certainement, mais elle n'avait pas consumé son enfance et sa jeunesse dans les ateliers de couture, courbée en deux, tout le jour, sur les étoffes puant le neuf, torturée par les crampes d'estomac, désirant avec passion, comme le seul plaisir gratuit, les amourettes du soir. Elle n'avait pas connu le rapide entraînement des amourettes aux amours sérieuses, au collage qui vous donne le goût des amusements et l'inhabitude du travail. Puis les tromperies, les débauches, la dèche invincible et, pour finir, le bordel. Voilà la vie quand on n'a pas le sou. Elle soupira. Elle ne voulut plus penser à ces choses. C'était trop révoltant. En vue, une place gisait qui lui parut immense. Au seuil d'un café, des officiers bottés, le monocle à l'œil, le képi bouffant, faisaient sauter un lévrier au-dessus d'une courte canne de cheval. Des jeunes gens parlaient très haut et agitaient des cigares dans l'air. « Encore des clients, ceux-là, » pensa-t-elle. L'omnibus avait enfilé des rues désertes, était arrivé à un terrain vague où seulement, par intervalle, des bornes blanches apparaissaient, fichées en terre. Plus loin, le rempart, tout couvert d'herbes rousses, d'arbres dépouillés, qui résillaient de leurs branches nues un ciel grisâtre. Lucie eut une seconde d'inquiétude. Le cocher se trompait-il? La mènerait-il à la campagne, par hasard? Elle allait frapper à la vitre pour l'interroger, mais un brusque chaos fit sursauter la fille, et la voiture demeura immobile. Par la portière ouverte, la face rieuse du cocher renseigna. « Voilà la rue Pépin !» Lucie sentit son estomac se serrer. Une grande lourdeur pesait en sa tête. « Comment ? Déjà ?» Cependant, elle suivit le geste et regarda. La rue descendait, tortueuse, très étroite. Les maisons avaient tous leurs volets fermés en des façades sans ornement. Les réverbères en saillie au-dessus des portes paraissaient s'allonger jusqu'aux murs leur faisant face, hautes murailles noircies où pendaient tristement des lianes sans verdure. Et du ciel, Lucie ne vit rien qu'une mince bande grisée enserrée entre les toitures adverses, très rapprochées. L'omnibus n'aurait jamais pu entrer là-dedans, alors j'ai été forcée d'arrêter. Du reste, le 7, il est tout prêt. Il se voit bien, hein, le numéro ? À nouveau, l'homme eut une joie bruyante. Il avait empoigné la valise et marchait à côté de la fille. Elle avait gardé un sourire, ne voulant pas laisser deviner son chagrin, qui eût semblé ridicule. Et il lui était même interdit de faire paraître un dégoût. Et cependant, une folle terreur l'avait prise, une envie de se sauver, de fuir. On la poussa du coude, on la fit arrêter. C'est ici. Les persiennes du rez-de-chaussée cuirassées de tôle, l'huis bronzé garni de gros clous et d'un guichet grillé, la lanterne aux vitres rouges, emmaillée d'un fil de fer, donnaient à la maison l'air morne d'une geôle. Mais au-dessus de la porte, à la corniche, un écu d'azur offrait un énorme sept tout en or, une réclame de joie, une impudente enseigne. Le cocher ayant sonné, le guichet glissa. Deux yeux luirent derrière le grillage. Puis, après un « Ah bien !» de reconnaissance, un bruit de double tour et de verrou tiré, le lourd battant tourna sur ses gonds. Une forte fille de la campagne, les épaules carrées, la voix dure, glapit. « C'est vous la nouvelle ? C'est bien, je vais chercher madame. » Lucie restait atterrée d'une telle brusquerie, d'une si outrageante indifférence. Oh, certainement, si ses jambes ne tremblaient pas ainsi, elle s'en irait bien loin, loin de cette prison où elle venait, stupide fille, s'enfermer volontairement. Comme on allait la traiter ! Que de grossièreté, que de torture, peut-être ! À un bruit venu de l'intérieur, elle leva la tête. Le couloir du sept lui apparut superbe. D'abord ce fut le parquet, une mosaïque de marbre noir et rose, brillante, reflétant les objets. Du milieu, une grille se dressait toute couverte d'argent. Un feuillage d'or enserrait les barreaux d'une étreinte resplendissante. Et la fille, émerveillée, voyait ce feuillage s'appliquer partout, enlacer les torsades qui cadraient les panneaux, s'enrouler au support des globes à gaz, piquer de taches étincelantes les ornements du plafond. Au bout, sur un vitrage où des fleurs étaient peintes, des points d'or scintillaient aussi. Et les murs roses, et le plafond de couleur havane, et le parquet où se mirait la grille, tout semblait disparaître sous une couche rayonnante de poussière dorée. Ce spectacle charma Lucie Tirache. Au moins, elle était tombée en une maison fréquentée par des gens riches et propres. Ça se voyait tout de suite. Et au-delà du vitrage, dans les salles, ce devait être plus magnifique encore. Elle aurait bien voulu voir, mais la grille empêchait d'entrer. Son désespoir reprit la fille. Elle se vit captive, derrière cet infranchissable obstacle, enchaînée pour le plaisir des autres. Le vitrage fut poussé. Une femme parut, toute vêtue de soie noire, l'air très digne, les doigts pleins de bagues. Un aspect intimidant de dame bien. « Bonjour, mon enfant, soyez la bienvenue. Entrez donc. » La fille murmura une salutation. Troublée, elle fouillait dans les plis de sa jupe et cherchait son porte-monnaie. Mais la patronne l'arrêta. « Laissez, laissez, ma chère. Maintenant que vous êtes de la maison, tous ces petits détails me regardent. » À tant d'affabilité, Lucie Tirache ne répondit pas. Elle prit un air revêche. Ce n'était pas avec de l'hypocrisie qu'on l'enjôlerait. Derrière madame, elle monta, avec d'impatientes glissades, sur le rebord des marches garnies de cuivre. En haut de l'escalier, s'affilait un couloir sombre, des teintes d'acajou colorant les boiseries. Lucie dut marcher à tâtons jusqu'au moment où madame, ayant ouvert une porte, un flot de rayons lumineux s'échappa. La chambre était très claire, avec des rideaux jaunes, une tapisserie presque blanche. « C'est ici que vous demeurerez. Est-ce que cette pièce vous va ?»« Mais oui, madame, » bouda Lucie, certaine que si tout cela lui eût déplu, on n'y eût rien changé. Celle qui était ici avant vous, c'était une boulonnaise, elle nous a quittés dans un coup de tête, et vit maintenant avec un commis voyageur qui là-bas. Tenez, voici ce qu'elle a laissé. La patronne s'avança vers la cheminée et montra une poupée en costume de matelote, empalée sous les jupons par un pied de bois. Comme Lucie se taisait, sans un apitoiement pour les calamités d'autrui, madame continua. « Si ça ne vous fait rien, on vous appellera Nina, comme la boulonnaise. parce qu'il y en a déjà une qui s'appelle Lucie, alors vous comprenez. Oui, madame. Sans doute, la Donard avait l'habitude d'essuyer de pareilles humeurs, car elle reprit avec une assurance qui agaça. Ma chère Nina, je crois que vous serez contente de la maison. Marianne ne reçoit que des gens très convenables. À propos, a-t-elle monté votre valise? Ah oui, la voici. Avec votre jolie tournure, vous ne serez pas longtemps sans amasser une petite fortune. Alors il vous sera facile de devenir propriétaire des effets qu'a laissés l'autre, et que je vous céderai pour un prix convenable. Nous prendrons cela peu à peu, sur vos gains. Ceci dit, madame, avec un empressement satisfait, ouvrit l'armoire à glace, exposa sur le lit tout un chatoiement d'étoffes voyantes et soyeuses dont elle énuméra les qualités. Maintenant je vous quitte. Vous allez choisir parmi ces costumes, et quand le timbre sonnera, vous descendrez. Marianne vous conduira. Au revoir, Nina.
Au revoir, madame.
Cette mielleuse prolixité laissa Lucie Tirache froide, chagrinée, honteuse d'elle-même. On lui imposait un nom, une livrée. On l'accommoderait, on la ficellerait au goût des pratiques, comme une chose sans volonté. Désormais, son devoir était plaire, plaire à tous, sans répit. Elle voulut s'assurer si elle parviendrait, sans trop d'efforts, à s'acquitter de cette tâche. L'armoire à glace était placée entre les deux fenêtres. La fille s'y étudia longuement. Des cheveux châtains, frisés très bas sur le front, ramenés en touffes épaisses devant les oreilles, où pendent de grands anneaux d'argent. En ce cadre, une figure aux joues pleines, toute blanchie de veloutine, des lèvres courtes et charnues, vernissées de rouge vif, laissant voir la blancheur mate des dents larges et hautes, des yeux couleur de bronze, s'enfonçant en des orbites bistrées, les paupières brunies avec art, sont piquées de cils longs et espacés, et entre elles, le nez droit, mince, aux narines mouvantes. Son corps, moulé en un costume bleu, offrit à Lucie l'ample saillie de la poitrine, très haute, puis une taille svelte, assise sur des hanches peu développées. Et ses hanches s'amincissaient en deux longues jambes, montées sur des pieds petits et camprés. Sans flatterie, elle était charmante, et pouvait se l'avouer. Dire qu'il allait falloir vendre tout cela. Au moins, ils en auraient pour leur argent, les hommes. Et c'était là, au milieu de ces meubles, qu'elle détaillerait son amour à tout venant. La chambre avait un aspect bourgeois, avec sa tapisserie grise à dessins bleuâtres, sa cheminée de marbre veiné. Sous globe, une pendule dorée à cadrans de faïence, des flambeaux. Entre la cheminée et la fenêtre, la toilette ouverte montrait son miroir, placé trop bas, une large cuvette pleine d'eau où baignait un pot de forme élancée. Le divan, les chaises étaient dépareillées, avaient des blancheurs d'usure au coin des étoffes tendues depuis longtemps. Partout s'étalaient les mailles d'un ouvrage au crochet. Elles envahissaient les sièges, s'attachaient au tapis de la table et chargeaient l'abat-jour de la lampe. Cela donnait à la pièce un cachet purement féminin que Lucie ne se rappelait avoir vu nulle part ailleurs. Et en un moment, tous les garnis visités par elle défilèrent en sa mémoire, parés de leur mobilier banneau, de leur secrétaire servant à enfermer des litres de liqueur, garnis d'officiers aux corniches d'alcôves décorées de sabres en croix, garnis d'employés aux guéridons couverts de paperasses calligraphiées, garnis de filles, aux commodes supportant des statuettes de plâtre rose. Et parmi ces derniers, celui de Marthe, une ancienne amie, la hanta surtout. Y avait-elle passé des après-midi autour de la table ronde, devant les verres pleins de café? Il se narrait des tromperies, de bons tours joués aux amants. Là, elle avait appris les prétendues farces de Léon, son premier amour. De stupides cancans, des calomnies sans doute. Les autres femmes enviaient leur bonheur, et pour le détruire, elles n'avaient négligé aucun moyen. Elles, idiotes, sans comprendre ce manège, avaient suivi leurs conseils, succombé bêtement avec l'intime de Léon, un soir que cet homme lui contait des histoires érotiques. Un de ces récits, dont elle avait gardé la souvenance, la ramena à penser aux pratiques de la volupté. Elle regarda le lit. Que de vilaines besognes elle allait être contrainte à accomplir. Il était en noyer, luisant de vernis, haussé par l'entassement des édredons et des couvertures, presque caché sous d'amples rideaux jaunes frangés de rouge. Rien n'évoquait l'idée de raffinement bizarre. De même, ailleurs, nul objet, nulle gravure obscène. Tout cela semblait attendre, dans la discrète clarté se filtrant à travers les persiennes closes. Une jeune fille très pure, prête à faire sa prière du soir, avant le sommeil. Au mur, des lithographies étaient appendues. Lucie les voulut voir de plus près, résolue à connaître toutes les infamies. Ce fut une heureuse déception. L'une représentait un berger et une bergère, causant sous un arbre. En l'autre étaient dessinés des costumes de ballet. Longtemps, elle contempla les jambes arrondies des ballerines, leurs sourires gracieux, leurs yeux en coulisses. La vue de ce tableau lui rappela les bals champêtres où elle s'amusait tant autrefois les jours de chômage. Elle revit la cour d'auberge, plantée d'arbres malvenus, ceinte de gloriettes où, toutes en sueur, les fillettes buvaient des sirops entre les quadrilles. Elle eut une réminiscence des airs de valse, un souvenir de ses premières amourettes, une vision de ses danseurs préférés qui l'embrassaient dans l'oreille pendant les polkas. Et elle fredonna, tout en cherchant à se représenter les figures de ses valseurs. Puis elle s'exaspéra. Le souvenir d'un couplet des cloches de Corneville était perdu. Elle susurra longtemps, espérant se rappeler par l'enchaînement du récitatif les paroles oubliées. Elle n'y put parvenir. Et soudain, d'autres airs lui vinrent en la mémoire. Une polka de Farbach, jouée lorsqu'elle dansa pour la première fois avec Léon. L'image de Léon s'empara de sa pensée. Elle le revit, beau, jeune, aimable. Il lui sembla entendre encore sa voix douce, exempte de l'horrible accent du pays. Les paroles de l'éphèbe avaient chanté à ses oreilles avec des inflexions si tendres qu'elles ne s'expliquaient plus à présent, sa résistance trop prolongée. Enfin, elle l'avait aimé, et avec lui avait éprouvé le suprême plaisir de se sentir caressée, embrassée, serrée éperdument. Quelles ivresses alors! Lucie Tirage se perdit en des rêveries enchantées, revécut sa vie d'amour. Ses lèvres s'étaient entr'ouvertes. Assise sur le divan, la tête renversée au dossier, elle regardait le plafond, les yeux noyés, dans une extase. Mais quand elle eut épuisé la série des souvenirs joyeux, une tristesse la reprit. À sa faute, à la rupture avec son amant, à la vie de noces dont elle avait ardé pour s'étourdir, elle songea avec des désespoirs. Et ses yeux s'étant rencontrés à la lithographie du ballet, elle revit encore le bal, mais un autre celui-là, ignoble, presque lugubre. Elle y allait, lorsque son père, ayant appris son inconduite, l'eut chassée de chez lui. Abandonnée de ceux qu'il avait perdus et rendue inhabile au travail par un éreintement morbide, elle recherchait pour s'entretenir les amours de hasard. En un bastringue, dont les murs badigeonnés gardaient la trace brune des doigts sales, parmi les filles en cheveux, aux mains rouges, les sous-officiers à la dégaine de souteneurs, elle tournoyait, collée à de jeunes riches en goguette, pour obtenir le paiement de sa chambre, de son manger et de ses toilettes. Cette existence était vraiment trop pénible, et non moins déshonorante que celle du lupanard. Au moins, elle gagnait un abri et son pain assuré. Du pain pour sa chair. Elle allait se vendre à qui voudrait d'elle, sans distinction. Désormais, ce sera à des amours d'une minute, à des aspirations bestiales qu'elle devra satisfaire. Il faudra singer les caresses tendres prodiguées autrefois à l'homme aimé, ressusciter par le mensonge une passion éteinte. Lucie Tirache se complaisait à imaginer toutes les vilenies qu'elle allait endurer. Elle s'injuriait elle-même, et des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues, s'arrêtant aux rondeurs du visage jusqu'à ce qu'elles fussent assez lourdes pour aller mouiller les mains croisées dans les jupes. Elle restait assise sur le divan, les yeux ronds obstinément fixes sur la poupée boulonnaise. Lorsque le timbre sonna, et la voix forte de Marianne appela « Toutes ces dames au salon !» Chapitre 2. L'entrée de Lucie au grand salon provoqua un tumulte. Elle se vit entourée, pressée, enlacée. Des faces barbues la frôlèrent, des baisers claquèrent sur ses épaules nues. Des mains saillissaient vers elle de l'évasement des manchettes blanches. Elle, interdite, n'osait avancer. Une terreur dégoûtée l'avait prise au contact de ces mâles en rute, et, des bras, elle écartait les embrassades, répétant « Allons, laissez-moi, voyons, vous allez me chiffonner !» On s'écarta. « Oh, fais voir cette belle robe !»« Mince de chic, mais est-elle méchante !»« C'est bien, madame, on vous laisse !»«
Encore une, sur le ventre de qui il en passera ?»
Elle haussa les épaules, affichant un grand mépris pour ses observations, et alla s'asseoir en un fauteuil, murmurant « En v'là des imbéciles !» Elle rajustait et flattait les plis de son jupon jaune, les volants de dentelle noire. Aux agaceries d'un jeune homme, assis près d'elle, elle ne daigna d'abord répondre. Mais, ayant trouvé insupportables ces questions sans cesse renouvelées, elle le renseigne rageusement. « Je m'appelle Nina, là, êtes-vous content maintenant ?»«
Comme tu es méchante !»
Satisfaite d'épancher sa fureur et ses dégoûts, elle s'emporta.
« C'est vrai, ça, aussi, si c'est pas bête de se lancer comme ça sur une femme pour lui éreinter toutes ses affaires. »«
Allons, tu es folle de te fâcher comme ça. C'est parce qu'on te trouve gentille, autrement on ne t'aurait rien dit. Il faut bien s'amuser. »
« Oh oui, ça ne prend pas. »«
Mais je t'assure, tu es charmante, en espagnol, avec une belle poitrine, dans un beau corsage rouge et des beaux bras bien blancs. Allons, laisse ta robe tranquille, il n'y a rien du tout. »«
Avec ça, regardez donc dans le bas, c'est tout décousu. »«
Attends, je vais te l'arranger. J'ai toujours eu des dispositions pour être couturière. »
Il s'agenouilla et se mit à lisser les dentelles en exagérant une mimique burlesque. Éjouie malgré elle de cette plaisanterie, Lucie frappa l'homme sur le crâne à coups d'éventail. Une grande sympathie venait à la fille pour celui qui l'adulait. Il n'était pas mal du tout. Un grand garçon bien bâti, avec des cheveux blonds coupés ras sur une peau blanche, des yeux bleus, une barbe frisée, jugée très fine quand il l'avait embrassée. Elle eut un mouvement de dépit lorsqu'il s'en fut demander à une autre femme, sa chère Laurence, de chanter au piano. On fit cercle autour de l'instrument, et Lucie, abandonnée, fut envahie d'une navrance découragée. Ses prévisions ne l'avaient pas trompée. Ils étaient bien répugnants, ces hommes, avec leurs sales désirs, qu'ils ne cachaient pas. Jamais elle ne pourrait coucher avec eux. Un seul avait semblé avoir pour elle une délicate compassion, et il la laissait là, sans un égard. Certes, elle ne resterait pas dans cette maison. À la première occasion, elle s'échapperait. Tout à l'heure, en descendant, elle était fermement résolue. Mais la grille, devant laquelle veillait Marianne, entravait toute tentative de fuite. Il était fort beau tout de même, ce couloir, avec sa grille argentée, ses panneaux lisses et la lumière étrange qui tombait de ses globes rouges.
le salon n'avait pas l'air aussi riche. Elle suivait des yeux sur les meubles, sur le tapis du guéridon, sur les rideaux, les côtes d'un rep vert à rayures brunes. Au mur était adaptée une tapisserie verdâtre, presque cachée sous d'immenses glaces encadrées d'or. Et Lucie aperçut, reflétée, la cheminée de marbre noir, la pendule, les deux bergers de bronze soutenant les candélabres, et tout à fait au coin du cadre, la troupe des hommes, embleuie de fumée, entourant la robe claire de Laurence. « Hein ? Ce n'est pas amusant, cette musique ?» Une petite femme, au corps grêle enfoui en une chemise de soie, la figure chiffonnée, couronnée de cheveux jaunes, s'assit et répéta sa question. « Je ne sais pas, je n'ai pas encore écouté. »« Voyez-vous, c'est Laurence qui chante. » Alors elle chante toujours un tas de bêtises, des choses ennuyeuses comme tout, vous comprenez, parce que moi j'aime les choses rigolotes. Et vous ?
Ça m'est égal.
Ah, quand êtes-vous arrivé ? Ce soir, hein ? Alors, vous n'avez pas encore mangé ici. Alors vous serez bien contente. Vous verrez comme la nourriture est bonne. Et puis on en a tant qu'on veut.
Vraiment ?
Oh, des masses de plats ! C'est pas une mauvaise maison ici, vous savez. Madame, elle est une bonne femme. Et puis monsieur aussi. Et puis les types qui viennent, ce sont de bons garçons, fins drôles. Seulement tout à l'heure, madame, elle va arriver. Parce qu'ils font flanelle. Et puis ils s'amusent pour rien. Alors c'est embêtant. C'est pas chic, n'est-ce pas ?
Lucie restait étourdie sous ce flot de paroles.
Était-elle bête, cette fille ?
Mais aussi bien aimable d'être venue la trouver, la voyant seule. Elle-même allait être gracieuse, car il fallait se faire une amie. Qui sait si les autres femmes n'étaient pas mauvaises ? Et elle s'ingénia à entretenir la conversation.
Reine, en retour, déversa d'interminables renseignements sur les habitudes de la maison, finit par faire l'éloge de Lucie qu'elle avait trouvée charmante.
« Voyez-vous, ça me faisait de la peine de vous voir comme ça toute seule. Alors je suis venue, comme vous êtes gentille.
Tiens, vous avez des pieds encore plus petits que ceux de Germaine. »«
Qui ça, Germaine ?»«
Celle-là qui fume, qui est appuyée sur le piano. C'est une Anglaise. Alors elle parle drôle, c'est épatant. Alors c'est pas facile de la comprendre. Et puis, figure-toi, elle s'appelait Lucie. Et puis on lui disait toujours... « Lucie, quelle scie !» Alors elle a changé de nom. Et puis elle se met en rage quand on ne l'appelle pas Germaine.
Et l'autre qui embrasse le petit là-bas ?
Ça, c'est Emilia, une calotine. Elle dit des prières tout le temps. Alors je sais pas ce qu'elle est venue faire ici. Elle aurait mieux fait de rester au couvent, bien sûr. C'est épatant, hein ? Figure-toi qu'elle ne veut jamais mettre de robe courte ni de maillot. Elle a toujours des robes longues.
C'est une manie, vous pensez, tout comme Laurence.
Celle qui chante ?
Elle a l'air chic.
Une femme mariée, oui, qui a fait la queue à son mari. Alors, il l'a fait mettre en prison. Et puis après, elle est venue ici. Laurence, chante un peu la mascotte. Vous allez voir comme elle chante bien. Laurence ! Laurence ! Bon, voilà qu'ils l'embrassent tous. Elle n'entend pas.
Lucie Tirache, attentive aux indications, détaillait curieusement les costumes, les manières des autres filles. Emilia paraissait une sotte, l'esprit toujours ailleurs. Germaine semblait souffrir de ne pouvoir achever ses phrases que par un geste d'impatience. D'aucune, Lucie ne voyait les traits cachés sous le fard. S'étant mirée, elle se trouva beaucoup mieux que ses femmes, plus fraîche et plus appétissante. Si les hommes la négligeaient ainsi, c'est qu'elle ne leur faisait pas d'avance. Cependant, elle eut comme une secrète envie d'affirmer sa valeur, de se montrer évidemment supérieure à toutes, à cette Laurence surtout, dont l'opulence des formes, la poitrine mouvante, attirait les caresses. Elle la voyait s'efforcer à séduire Eugène. Sans doute ce garçon était riche, puisqu'on montrait tant d'empressement à lui plaire. Peut-être celle qui saurait le captiver parviendrait-elle à obtenir sa sortie du lupanar, à devenir sa maîtresse. Quel bonheur, si elle pouvait s'en faire aimer. Elle serait libre, luxueusement entretenue. Et elle résolut accaparer pour elle seule les attentions du mâle, charmée par l'espoir d'une vie indépendante et large. Comme le jeune homme s'approchait, elle l'appela. « Eh bien, c'est comme cela que vous me lâchez ? Ce n'est pas gentil, vraiment. »« Oh, ma pauvre Nina, me voilà. Que veux-tu ? M'aimer ?» En ce moment, madame entra. Elle paraissait vexée. Un silence se fit, elle ordonna. « Mesdames, on vous demande, passez dans le salon bleu. » « Ah ! Le voilà, le coup du champagne, hein, madame Donnard ? » s'écria Eugène. « Eh bien, faites-le apporter, ce sillerie des familles. Combien faut-il prendre de bouteilles pour que ces dames restent ? Une, deux, trois, dites combien ?»«
Ce n'est pas tout ça, on demande ces dames. Je vais vous en laisser une pour vous tenir compagnie. C'est tout ce que je peux faire. »
« Comment, vous nous laissez une femme ? Une seule femme pour six hommes ? Mais c'est indécent, ça, madame Donnard. D'abord, je vous assure que nous monterons. Faites apporter le champagne. Trois bouteilles. » « Écoutez, je veux bien vous laisser ces dames, mais je vais en emmener deux pour une société que j'ai par là. Émilia et Germaine, venez. »
« Dites donc, vous nous les ramènerez quand ces types-là seront partis ?»«
Oui. »
« Allons, vous êtes un ange. » La vie sans la femme, voyez-vous, c'est comme le désert sans le chameau. »
Des vociférations ponctuèrent cette phrase. Les dames se récrièrent. Madame sortit avec les deux pensionnaires. Lucie attira Eugène vers elle.
« Alors, je suis un chameau ? Tu es poli, toi ? »
« Mais non, tu ne comprends pas. »
Et il se lança dans une explication du Sahara et de ses caravanes. Lucie s'y intéressa peu. Elle se distrayait en regardant Laurence, qui de temps à autre la fixait d'un œil mécontent. Cette femme était couchée entre les bras d'un officier. Un tout jeune homme lui grattait la plante des pieds en faisant craquer ses ongles sur la soie des bas mauves. Reine comptait gravement et excitait par son langage des spasmes d'hilarité. Deux lieutenants d'artillerie, qui l'écoutaient, rajustaient leurs monocles après chaque quinte de rire. Et la fille, par instant, se fâchait. « Non, si vous vous moquez de moi comme ça, je ne dis plus rien. » Mais bientôt, elle reprenait ses récits et son air grave. « Je savais bien que tu n'aurais pas voulu dire que j'étais un chameau, » conclut Lucie en embrassant Eugène lorsqu'il eut terminé son explication. « Non, vois-tu, il ne faut pas que tu m'insultes. Des autres, ça me serait égal, mais de toi, ça me ferait trop de peine. »
« Pas possible !» répondit Eugène ironiquement.
« Oui, je t'assure, quand je t'ai vu, ça m'a fait un effet.
Oh, je sais bien, tu ne me croiras pas, n'est-ce pas ? Une femme de maison, ça ne peut pas aimer. »
« Mais si, celle-là comme les autres, mais pas si rapidement que ça. Avoue que tu veux me la faire, voyons. »
« Oui, moque-toi de moi, va. C'est la première maison que je fais, c'est le premier soir que j'y passe. »
Et elle commença une histoire, enfilant les détails sans hésitation. Elle la composa si émouvante qu'elle s'en attendrit elle-même. Elle était la victime d'un lâche qui l'avait mise enceinte et l'avait plantée là. Fille de bonne famille, elle ne savait aucun métier et avait été forcée à se prostituer pour vivre. Lucie voyait l'homme devenir peu à peu moins incrédule. Son émotion le gagnait. Elle attendait les réponses, baissant la tête d'un air navré lorsqu'elle semblait confirmer son dire, s'impatientant, accumulant les anecdotes, produisant des conversations qu'elle jurait avoir tenues, si un fait paraissait mis en doute. Eugène se leva pour payer le champagne apporté par Marianne. Il y eut entre les jeunes gens une lutte de générosité. Il fut vainqueur, et Lucie put voir l'or briller au fond de sa bourse. Maintenant, elle était sûre de cette richesse. Et persuadée d'avoir produit une grande impression, elle était très heureuse, se voyait déjà chez elle, époussetant des meubles en palissandre ou trônant dans une loge au théâtre. Ce serait encore fort agréable d'être la maîtresse d'un garçon à barbe aussi douce.
un grand tapage s'élevait. On voulait embrasser la gouvernante. Ce spectacle amusa Lucie. Cependant, malgré l'envie qu'elle en avait, elle se garda de rire et conserva sa mine lugubre. Eugène était revenu se mettre auprès d'elle. Elle renversa la nuque sur son épaule, lui enlaça le cou de ses bras, et, avec une voix alanguissante, s'enchantant elle-même de l'harmonie de ses paroles, elle murmurait.
« Oui, toi, je t'ai aimé tout de suite, comme ça. Tu n'as pas l'air voyou comme les autres, ni poseur comme les officiers. C'est laid d'être poseur. Regarde comme ils ont l'air bêtes avec leurs carreaux dans l'œil. Et puis tu n'es pas non plus débraillé comme celui-là, avec des cheveux gras qui traînent sur le col. Tu as une belle peau, blanche comme celle d'une femme, bien douce à baiser, et des mains soignées avec de beaux ongles. Vois-tu, je ne pourrais pas aller avec les autres. J'ai toujours connu des gens distingués, et ça me ferait trop souffrir d'en connaître d'autres, à présent. »
Il se laissait faire, lui collait de longs baisers dans le cou, sur les seins. Elle simulait un frissonnement irrésistible, et lui répétait. « Est-elle fine, cette petite Nina? Est-elle fine ?» Soudain, une exclamation la fit retourner.
« Ah, ça! Mais elle l'accapare! Elle l'accapare! Elle en abuse de l'accaparement, cette femme! Il n'en boit seulement pas !»«
Mais si !» répondit Eugène. « Nous voilà. N'est-ce pas, Nina, que tu veux boire ?»
Elle répondit très bas.
« Oui, vois-tu, il faut nous énerver. La nuit sera meilleure. »
Un officier fit sauter le bouchon d'une bouteille. Les femmes crièrent. À grands flots, la mousse blanche s'épancha dans les flûtes. On trinqua. Puis il y eut un silence, à peine interrompu par le tintement des verres qu'on remplissait à nouveau. Les officiers causaient entre eux, sans s'occuper des femmes. Un étudiant lissait d'une main ses longs cheveux, promenait l'autre, dans une caresse lascive, sur ses voisines, Germaine et Emilia, qui étaient revenues au salon. Le petit jeune homme grattait maintenant les pieds de Reine. Lucie Thirache, ensevelie en un délicieux repos, restait muette. À entendre seulement le bruissement des éventails, le son mat d'une flûte reposée sur le plateau, elle éprouvait un calme plaisir. Elle avait allumé une cigarette, en soufflait la fumée dans la bouche d'Eugène, qui murmurait d'amoureuses paroles. Elle se trouvait très bien ainsi, perdue dans une molle rêverie, avec un avenir heureux en perspective, joyeuse de se sentir étreinte par un homme qui la désirait, de boire à petits coups, continuellement, un vin pétillant, de lancer au plafond de minces spirales bleuâtres. Elle s'enivra. Peu à peu, les objets semblèrent vaciller, leurs contours devinrent indécis, étincelèrent d'un scintillement continu. Puis ce fut la danse, dans la cour couverte, à la lueur rubéfiante des gaz enfermés en des globes rouges. Elle se sentait très légère, moulant son corps sur celui de Gênes. Et le tourbillon s'accélérait, elle n'entendait plus la musique que par lambeaux. Des figures rouges, toutes rouges, tournaient autour d'elle, devant les fenêtres du salon, qui lui parut d'une blancheur éclatante, extraordinaire, phénoménale. Elle chercha à comprendre pourquoi tout était rouge d'un côté et blanc de l'autre, n'y réussit pas, et ferma les yeux. Elle tournait toujours. Elle eut la vision d'une sarabande gigantesque. L'omnibus dans lequel elle était venue, les rues, les hommes, les robes polychromes, l'armoire à glace, tout cela tournait avec elle, se renversait et se redressait. Tout à coup, l'hôtel de ville s'avança comme pour l'écraser, puis il s'éloigna, se rapetissa. Un instant, elle le vit gros comme un dé, se détachant très loin sur un fond uniformément rouge. Ensuite, il lui sembla qu'elle l'avait avalé, qu'il grandissait en elle, s'élargissait, lui rompait la poitrine, allait l'étouffer. Elle eut un haut le cœur, elle ouvrit les yeux. Elle était dans le salon, affalée à un divan. Une buée lumineuse l'entourait, la séparait des autres personnes. Derrière cette buée, Laurence, tremblotante, versait du champagne, goutte à goutte, en la bouche d'un officier couché à terre. S'examinant elle-même, Lucie voyait frétiller sa robe jaune, ses dentelles noires, ses bas violets, ses pieds appuyés au plancher. Sans cesse, ce plancher se dressait ou se dérobait, puis s'aplanissait pour se dresser encore. Et dans une vague idée qu'il lui arriverait un grand bien si elle embrassait l'homme vautré à côté d'elle, la fille le baisait partout, le pressait, sans détacher les lèvres de sa chair. Une à une, les femmes disparurent. Elle-même se leva à une question qu'on lui fit. Le plancher se mut sous ses jambes. Elle dut s'accouder à la porte pour reprendre un aplomb. Elle vit Eugène donnant de l'argent à Marianne, remarqua encore que c'était très commode, qu'elle n'aurait à s'inquiéter de rien. Enfin, entamant le refrain des cloches, perdu l'après-midi et qu'elle venait de retrouver, elle le chanta de toutes ses forces en montant l'escalier. Elle était prise d'une joie folle, avec une envie très grande de briser les globes à gaz. Le lendemain, en s'éveillant, Lucie Tirage trouva 20 francs sur la table de nuit. Elle calcula, elle avait gagné 30 francs la journée précédente, et elle s'était joliment amusée. Quelle cuite ! Toute réflexion faite, ne pas avoir prié Eugène pour devenir sa maîtresse était un oubli peu regrettable. Cela aurait peut-être semblé ridicule.